Chapitre 18. Journal du docteur Seward. 30 septembre.
Je rentrai à la maison à 5 heures et découvris que non seulement Godalming et Maurice étaient arrivés, mais qu'en plus, ils avaient déjà étudié les retranscriptions des différents journaux et lettres que Harker et sa merveilleuse femme ont produites et classées. Harker n'était pas encore rentré de sa visite aux transporteurs à propos desquels le docteur Hensay m'avait écrit. Mrs. Harker nous servit une tasse de thé, et je dois honnêtement reconnaître que, pour la première fois que j'y suis installé, la vieille maison me semble être véritablement un home. Quand nous eûmes terminé, Mrs. Harker me dit « Docteur Seward, puis-je vous demander une faveur ? J'aimerais voir votre patient, Monsieur Renfield. Laissez-moi le voir. Ce que vous avez écrit sur lui dans votre journal m'intéresse tellement !» Elle était si suppliante et si charmante que je ne pouvais le lui refuser, de plus je n'avais aucune raison valable de lui dire non. Je l'emmenai donc avec moi. En entrant dans la chambre, je dis à Renfield qu'une dame souhaitait le voir, à quoi il répondit simplement « Pourquoi ?»« Elle visite l'établissement et elle souhaite voir tout le monde, » répondis-je. « Oh, très bien, » dit-il. « Faites-la entrer dans ce cas, mais attendez une minute, que j'ai le temps de mettre un peu d'ordre. » Sa façon de mettre de l'ordre était assez particulière. Il avala tout simplement toutes les mouches et toutes les araignées qui se trouvaient dans les boîtes avant que je puisse l'arrêter. Il était évident qu'il craignait que quelqu'un d'autre ne s'en occupât. Quand il eut accompli cette tâche répugnante, il dit joyeusement « Faites entrer la dame !» Et il s'assit sur le bord de son lit, la tête baissée, mais les yeux levés, afin d'être en mesure de la voir lorsqu'elle entrerait. Pendant un instant, je crus qu'il pourrait avoir quelque pulsion homicide. Je me souvenais combien il m'avait paru calme, juste avant de m'attaquer dans mon bureau, et je pris garde de rester près de lui, afin de pouvoir le saisir si jamais il se jetait sur elle. Elle pénétra dans la pièce avec une grâce et une simplicité qui étaient à même d'imposer immédiatement le respect à un aliéné. La simplicité des manières est en effet l'une des qualités que les fous respectent le plus. Elle se dirigea vers lui, aimable et souriante, et lui tendit la main. « Bonsoir, monsieur Renfield, » dit-elle. « Vous voyez, je vous connais, car le docteur Seward m'a parlé de vous. » Il ne répondit pas tout de suite, mais la regarda intensément, les sourcils froncés. Puis son regard exprima l'émerveillement, bientôt remplacé par le doute. Alors, à ma grande stupéfaction, il dit « Vous n'êtes pas la fille que le docteur voulait épouser, hein ? Ça n'est pas possible, vous savez, parce qu'elle est morte. » Mrs. Harker répondit avec un aimable sourire. « Oh non, j'ai un mari à moi que j'ai épousé avant que le docteur Seward et moi nous soyons rencontrés. Je suis Mrs. Harker. »« Alors, que faites-vous ici ?»« Mon époux et moi-même sommes en visite chez le docteur Seward. »« Alors, ne restez pas ici. »« Mais pourquoi ?» Je pensais que ce style de conversation pouvait déplaire à Mrs. Harker autant qu'à moi, et j'intervins. « Comment savez-vous que je voulais épouser quelqu'un ?» Il me répondit de façon méprisante, après une pause durant laquelle il regarda Mrs. Harker, puis moi, avant de détourner le regard. « Quelle question stupide !»« Je ne vois pas les choses ainsi, Mr. Renfield, » dit Mrs. Harker, prenant immédiatement parti pour moi. Il lui répondit en lui témoignant autant de courtoisie et de respect qu'il avait montré de dédain pour moi. « Vous comprendrez, bien sûr, Mrs. Harker, que quand un homme est aussi aimé et respecté que l'est notre hôte, tout ce qui le concerne est un sujet d'intérêt pour notre petite communauté. Le docteur Seward est aimé non seulement des siens et de ses amis, mais aussi de ses patients, et certains de ceux-ci, dont l'équilibre mental est pour le moins précaire, sont prompts à confondre les causes et les effets. » Depuis que je suis moi-même détenu dans cet asile, Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que les tendances au sophisme des résidents peuvent les conduire aux erreurs de non causa et d'ignoratio elenchi. J'écarquillai littéralement les yeux devant cette démonstration. Voilà que mon spécimen le plus précieux, le plus représentatif de sa catégorie que j'ai jamais rencontré, se mettait à parler philosophie et avec les manières d'un gentleman très comme il faut. Je me demandais si c'était la présence de Mrs. Harker qui avait actionné quelques cordes sensibles dans sa mémoire. Si cette nouvelle évolution était spontanée ou due à l'influence inconsciente de Mrs. Harker, alors celle-ci devait être dotée de pouvoirs ou de talents particuliers. Nous continuâmes à parler pendant un moment, et le voyant apparemment très raisonnable, elle s'aventura, tout en me lançant un regard interrogateur au moment où elle commença, à le faire parler de son sujet favori. Une fois de plus, je fus stupéfait. Il répondit à la question avec l'impartialité d'un homme parfaitement sain d'esprit, et allant même jusqu'à se prendre en exemple lorsqu'il mentionnait certains faits. « Eh bien, voyez-vous, je suis moi-même un homme qui a d'étranges croyances. En fait, il n'est pas étonnant que mes amis aient été alarmés et aient insisté pour que je sois mis sous surveillance. Voyez-vous, je m'imaginais que la vie était une entité positive et éternelle, et que si je consommais une multitude d'êtres vivants, quelle que soit leur position sur l'échelle de la création, je pourrais indéfiniment prolonger ma vie. À certains moments, j'y croyais tellement que j'ai réellement voulu prendre la vie d'un homme. Le docteur ici présent pourra témoigner qu'en une certaine occasion, j'ai essayé de le tuer dans le but d'augmenter ma force vitale en assimilant l'énergie de son corps par le biais de son sang, m'appuyant bien sûr sur la phrase des Écritures « car le sang est la vie ». Bien qu'évidemment, le fabricant d'une certaine potion ait vulgarisé ce truisme jusqu'à la nausée. N'est-ce pas exact, docteur ? J'acquiesçai d'un signe de tête, car j'étais tellement abasourdi que je ne savais que penser ou que dire. Il était difficile d'imaginer que je l'avais vu manger ses araignées et ses mouches il n'y avait pas 5 minutes. Regardant ma montre, je vis qu'il était l'heure de partir pour aller chercher Van Helsing à la gare. Mrs. Harker m'accompagna, après avoir dit à Renfield avec un sourire « Au revoir, j'espère vous revoir souvent dans des conditions qui vous seront plus agréables. » À quoi il répondit à ma vive surprise. « Au revoir, ma chère. Je prie le Seigneur de ne plus jamais revoir votre doux visage, qu'il vous bénisse et vous protège. » Quand je partis retrouver Van Helsing à la gare, je laissai derrière moi le pauvre Art, qui n'avait jamais été aussi bien depuis que Lucie était tombée malade, et Quincey, qui commençait à retrouver l'énergie qu'il avait perdue depuis bien des jours. Van Helsing descendit de la voiture avec l'impatiente légèreté d'un jeune garçon. Il me vit immédiatement et se précipita vers moi en me disant « Ah, ami John, comment allons-nous ? « Bien, parfait. J'ai été très occupé et je viens avec l'intention de rester si cela est nécessaire. Tout est prêt en ce qui me concerne et j'ai beaucoup à vous dire. Madame Mina est avec vous ? Bien. Et son agréable mari ? Et Arthur et mon ami Quincey, sont-ils avec vous, eux aussi ? Bien. » Tandis que je me dirigeais vers mon établissement, je lui racontais ce qui s'était passé et comment mon propre journal s'était finalement révélé utile, sur une suggestion de Mrs. Harker. À ce moment, le professeur m'interrompit. « Ah, cette merveilleuse Madame Mina ! Elle a le cerveau d'un homme qui serait particulièrement doué, et le cœur d'une femme. Dieu avait un dessein, croyez-moi, quand il l'a façonnée en la dotant de si beaux attributs. « Ami John, jusqu'ici, la chance a voulu que cette femme nous apporte son aide, mais après ce soir, elle ne devra plus rien avoir à faire avec cette terrible histoire. Elle ne doit pas courir de si grands risques. Nous, les hommes, sommes déterminés à détruire ce monstre. Eh oui, n'avons-nous pas prêté serment ? Mais cela n'est pas l'affaire d'une femme. Même si elle n'était pas blessée, le cœur pourrait lui manquer devant tant d'horreurs. Et par la suite, elle pourrait en souffrir, souffrir de ses nerfs le jour et de ses rêves la nuit. Et de plus, elle est une jeune femme qui est mariée depuis peu et elle aura à penser à d'autres choses très bientôt, si ce n'est dès maintenant. Vous m'avez dit qu'elle a tout reporté par écrit. Elle doit donc assister à notre conférence. Mais dès demain, elle devra se détourner de ce travail, que nous poursuivrons seuls. J'étais de tout cœur avec lui. Je l'informai ensuite de ce que j'avais découvert en son absence. La maison dont Dracula avait fait l'acquisition était celle qui jouxtait mon établissement. Il en fut stupéfait et sembla soudain très inquiet. « Oh, si seulement nous avions su cela plus tôt, dit-il. Alors nous aurions pu l'atteindre à temps pour sauver la pauvre Lucie. Mais il ne sert à rien de pleurer sur le passé, comme on dit ici. Nous ne devons plus penser à cela, mais poursuivre notre chemin jusqu'au bout. » Alors il s'enferma dans le silence jusqu'à ce que nous arrivâmes à destination. Avant que nous allions nous préparer pour le dîner, il dit à Mrs. Harker « Mon ami John me dit, Madame Mina, que vous et votre mari avez compilé et remis en ordre l'ensemble des événements jusqu'à ce moment. »« Pas jusqu'à ce moment, professeur, » répondit-elle sans réfléchir, « jusqu'à ce matin. » « Mais pourquoi pas jusqu'à maintenant ? Nous nous sommes rendus compte à quel point même les plus infimes détails pouvaient souvent nous éclairer. Nous nous sommes dit tous nos secrets et aucun d'entre nous ne s'en porte plus mal. » Mrs. Harker commença à rougir, puis sortant un papier de sa poche, elle dit « Docteur Van Helsing, voulez-vous lire ceci avant de me dire si je dois continuer ? Ce sont les notes que j'ai prises aujourd'hui. J'ai moi aussi pris conscience qu'il était nécessaire de tout noter, même les événements les plus anodins, mais ceci me semble vraiment personnel. Devons-nous toutefois l'inclure ? » Le professeur lut le document, prit un air grave, et le lui rendit en disant « Non, pas si vous ne le souhaitez pas, mais pour ma part, je crois que cela vaudrait mieux. Votre époux ne vous en aimera que davantage, et nous, vos amis, vous en estimerons et même vous en aimerons plus encore. » Elle reprit ses notes en rougissant de plus belle, mais avec un grand sourire. Et ainsi, jusqu'à ce moment même, toutes nos notes sont complètes et bien ordonnées. Le professeur en a emporté une copie pour l'étudier après le dîner et avant notre conférence, qui est prévue à 9h. Tous les autres ont déjà lu l'intégralité des documents. Ainsi donc, quand nous nous rencontrerons dans le bureau, chacun de nous sera informé de tous les faits, et nous pourrons élaborer notre plan de bataille contre cet ennemi terrible et mystérieux. Journal de Mina Harker. Septembre.
Lorsque nous nous rencontrâmes dans le bureau du docteur Seward, 2 heures après le dîner qui eut lieu à 18h, nous adoptâmes inconsciemment la configuration d'une sorte de conseil d'administration ou de comité. Le professeur Van Helsing s'assit à un bout de la table vers lequel le docteur Seward l'avait dirigé lorsqu'il était entré dans la pièce. Il me fit asseoir à côté de lui, à sa droite, et me demanda d'être la secrétaire de séance. Jonathan s'assit à côté de moi. En face se trouvait Lord Godalming, à la gauche du professeur, le docteur Seward au centre, et Mr. Morris. Le professeur prit la parole. « Je suppose que nous sommes tous, à présent, familiers avec les faits qui sont consignés dans ces papiers. » Comme nous acquiesçâmes tous, il continua. Alors peut-être sera-t-il bon que je vous dise quelque chose du genre d'ennemi auquel nous avons affaire. Il est des éléments de l'histoire de cet homme, des éléments que j'ai vérifiés et qui doivent être portés à votre connaissance. Ensuite, nous pourrons discuter de la meilleure manière d'agir et nous entendre là-dessus. Les vampires existent. Certains d'entre nous en ont reçu la preuve, mais même si notre expérience malheureuse ne nous avait pas apporté cette preuve, les enseignements et les témoignages du passé en donnent des preuves suffisantes pour des gens sains d'esprit. J'admets avoir été en premier lieu sceptique. Si je ne m'étais pas entraîné de longue date à conserver un esprit ouvert, je n'aurais pu y croire avant que les faits ne tonnent à mes oreilles. Vois, vois, je suis la preuve, je suis la preuve. Hélas, si j'avais su tout de suite ce que je sais maintenant, non, même si je l'avais seulement supposé, une vie aurait pu être épargnée, cette vie si précieuse aux nombreuses personnes qu'il aimait. Mais cela est du passé, et nous devons nous atteler à la tâche, afin que d'autres pauvres âmes ne périssent pas à leur tour, alors que nous pouvons les sauver. Le Nosferatu ne meurt pas, comme l'abeille, après avoir piqué une seule fois. Il ne fait que se renforcer, et se renforçant, il multiplie ses capacités à accomplir le mal. Ce vampire qui est parmi nous possède à lui tout seul la force de 20 hommes. Il est plus habile que les mortels, car son intelligence a mûri avec les siècles. Il dispose également des ressources de la nécromancie, qui est, comme l'implique son étymologie, la divination par les morts. Il peut commander tous les morts dont il s'approche. Il est brutal et pique brutal. Il est d'une cruauté démoniaque, dépourvu de cœur. Il est capable, dans certaines limites, d'apparaître à l'heure et à l'endroit qu'il souhaite, et sous n'importe laquelle de ses formes habituelles. Il peut, lorsqu'il est à portée, diriger les éléments comme la tempête, le brouillard, le tonnerre. Il peut commander aux êtres les plus méchants, comme le rat, le hibou et la chauve-souris, le papillon de nuit, le renard et le loup. Il peut grandir et rapetisser, et il peut à certains moments disparaître à toute perception et devenir invisible. Comment, dans ces conditions, orienter les coups destinés à le détruire ? Comment trouverons-nous son repère, et quand nous l'aurons trouvé, comment le détruire ? Mes amis, cela n'est pas rien. C'est une tâche terrible que nous entreprenons, une tâche de nature à faire trembler les plus braves. Car si nous échouons dans notre combat, cela signifie qu'il va gagner. Et alors, que deviendrons-nous ? La vie n'est rien, je ne lui prête pas tant de valeur, mais un échec, ici, ne serait pas une simple question de vie ou de mort. Cela engage à devenir comme lui, de hideuses créatures de la nuit, sans cœur et sans conscience, des prédateurs se repaissant des corps et des âmes de ceux que nous aimons le plus. Devant nous, pour toujours, les portes des cieux seront closes, car qui les rouvrira pour nous ? Nous traverserons l'éternité, abhorrés de tous, comme une souillure sur le visage rayonnant de Dieu, une flèche dans le flanc de celui qui est mort pour racheter les hommes. Mais nous faisons face à notre devoir, et dans de telles circonstances, avons-nous le droit de flancher ? Pour moi, je dis non, mais je suis vieux, et la vie, avec ses rayons de soleil, ses lieux enchanteurs, ses chants d'oiseaux, sa musique et son amour, est loin derrière moi. Vous autres êtes jeunes. Certains éprouvent du chagrin, mais il vous reste à tous des jours heureux à vivre. Qu'en dites-vous ? Alors qu'il était en train de parler, Jonathan avait pris ma main. Je craignis très fort quand je vis sa main se tendre, que l'épouvante face à ce danger ne le submergeât. Mais je me sentis revivre à son contact, si fort, si plein de confiance, si résolu. La main d'un homme courageux peut parler à sa place. Elle n'a même pas besoin de l'amour d'une femme pour comprendre sa musique. Quand le professeur eut fini de parler, mon mari regarda dans mes yeux, et je regardais dans les siens. Nous n'avions nul besoin de nous parler. « Je réponds de Mina et de moi, » dit-il. « Comptez sur moi, professeur, » dit Mr. Quincy Morris, laconique comme à l'accoutumée. Le docteur Seward se contenta de hocher la tête. Le professeur se leva, et, après avoir déposé son crucifix d'or sur la table, il tendit ses deux mains de chaque côté. Je pris sa main droite, et Lord Godalming sa main gauche. Jonathan tint ma main droite et donna l'autre à Mr. Morris, et ses mains serrées furent le ciment qui nous lia. Je sentais dans mon cœur un froid glacé, mais il ne me vint même pas à l'esprit de reculer. Nous prîmes nos places, et le docteur Van Helsing continua avec une chaleur nouvelle, qui indiquait que le vrai travail venait de commencer. Et ce travail devait, comme toute autre affaire dans la vie, être pris au sérieux, avec gravité. « Bien, vous savez à quoi nous devons nous mesurer. Mais nous ne sommes pas, nous non plus, dépourvus d'atouts. Nous avons de notre côté la puissance de notre union, une puissance qui est refusée aux vampires. Nous avons les ressources de la science, nous sommes libres d'agir et de penser, et les heures du jour et de la nuit nous appartiennent également. En fait, aussi loin que nos pouvoirs s'étendent, ils sont sans entrave, et nous sommes libres d'en user. Nous avons notre dévouement pour notre cause, et un but à accomplir qui n'est pas un but égoïste. Ces choses-là sont d'une grande importance. Et maintenant, voyons toutes les restrictions qui viennent limiter les puissances qui se dressent contre nous, et par quoi l'individu est empêché. En d'autres termes, examinons les limitations des vampires en général, et de celui-ci en particulier. Ce sur quoi nous devons nous appuyer, ce sont les traditions et les superstitions. Celles-ci ne semblent pas déterminantes quand il s'agit de vie et de mort, et même quand il s'agit de choses plus graves encore que la vie ou la mort. Et pourtant, nous devons nous en satisfaire, tout d'abord parce que nous y sommes obligés, puisque nous ne disposons d'aucun autre moyen. Et ensuite parce que, après tout, ces choses que sont la tradition et la superstition sont l'alpha et l'oméga. Est-ce que la croyance dans les vampires ne repose pas entièrement sur elles, même si, hélas, ce n'est pas le cas pour nous? Il y a un an, lequel d'entre nous aurait accepté une telle possibilité au milieu de notre 19e siècle scientifique, sceptique et factuel? Nous avons même douté d'une croyance que nous voyions pourtant justifiée de nos propres yeux. Nous pouvons donc partir du principe que le vampire et la croyance dans ses limitations et dans son remède reposent sur la même base. Car, laissez-moi vous dire que le vampire est connu partout où l'homme s'est développé. Dans la Grèce antique, dans la Rome antique, il a prospéré partout, en Allemagne, en France, en Inde, même dans la péninsule du Chersonèse, et il se trouve même en Chine, ce pays si distant de nous à tous les égards, où les gens le craignent encore de nos jours. Il a suivi l'Islandais forcené, le Hun possédé du diable, le Slave, le Saxon, le Magyar. Ainsi donc, nous avons là toute la documentation nécessaire pour agir, et soyez assurés que la plupart de ces croyances se basent sur des faits identiques à ceux qui ont constitué notre douloureuse expérience personnelle. Les vampires survivent et ne peuvent mourir par le seul passage du temps. Ils peuvent croître et se multiplier lorsqu'ils s'abreuvent du sang des vivants. Plus encore, certains d'entre nous ont pu constater qu'ils pouvaient même rajeunir, que leurs facultés vitales s'intensifient et paraissent se régénérer lorsqu'ils se gorgent de leur aliment spécial. Mais ils ne peuvent prospérer sans ce régime, ils ne mangent pas comme les autres. Même l'ami Jonathan, qui a vécu avec le comte pendant des semaines, ne l'a jamais vu manger, jamais. Il ne projette aucune ombre, et il ne se reflète pas dans le miroir, ce que, encore une fois, Jonathan a pu observer. Il a dans la poigne la force de plusieurs hommes, ce que Jonathan a constaté lorsqu'il a claqué la porte au nez des loups et lorsqu'il l'a aidé à descendre de la diligence. Il peut se transformer en loup lui-même, ce que nous avons déduit du récit de l'arrivée du bateau à Whitby, et notamment de l'épisode du chien lacéré. Il peut apparaître sous la forme d'une chauve-souris, ce que Madame Mina a vu à la fenêtre de Whitby, ce que l'ami John a vu quand la créature s'est envolée vers cette maison voisine, et ce que mon ami Quincy a vu à la fenêtre de Miss Lucy. Il peut arriver par une brume qu'il crée, ainsi qu'en témoigne ce noble capitaine de navire. Mais, de ce que nous savons, la distance à laquelle il peut créer cette brume est limitée, et il ne peut la faire surgir qu'autour de lui. Il chevauche les rayons de lune sous forme de fines particules, ce que Jonathan encore a vu faire par ses sœurs au château de Dracula. Il peut devenir minuscule. Nous-mêmes, nous vîmes Miss Lucy, avant qu'elle ne trouve la paix, passer par une fente de l'épaisseur d'un cheveu à la porte du tombeau. Il peut, une fois qu'il connaît le chemin, sortir de n'importe quoi ou entrer dans n'importe quoi, de quelque manière que le lieu soit scellé, verrouillé ou même soudé par la force du feu. Il peut voir dans le noir, ce qui n'est pas un pouvoir négligeable dans un monde qui est toujours à moitié dans l'ombre. Ah, mais écoutez-moi bien. Certes, il peut faire tout ceci, mais il n'est pas libre. Non, il est même plus prisonnier qu'un esclave aux galères ou qu'un fou dans sa cellule. Il ne peut se rendre où il veut. Lui qui est surnaturel doit pourtant se plier à certaines lois de la nature. Nous ne savons pas pourquoi. Il ne peut entrer nulle part, tout d'abord, si un habitant de la maison ne l'y a pas invité, bien que par la suite il puisse aller et venir à sa guise. Son pouvoir cesse, comme celui de toutes les créatures infernales, au lever du jour. Il ne peut jouir d'une liberté relative qu'à certains moments. S'il ne se trouve pas à l'endroit auquel il est attaché, il ne peut se transformer qu'à midi ou au moment précis du lever ou du coucher du soleil. Toutes ces choses nous ont été rapportées, et dans ces documents, nous en trouvons des preuves par inférence. Ainsi, même s'il peut faire ce qu'il veut à l'intérieur de ses limites, quand il détient de la terre de chez lui, un cercueil, un enfer ou un lieu impie pour se réfugier, comme par exemple la tombe du suicidé à Whitby, à d'autres moments, il peut seulement se métamorphoser à heure fixe. Il est dit également qu'il ne peut traverser les eaux vives que lorsque la mer est étale ou à marée haute. Ensuite, il y a des choses qui lui retirent son pouvoir, comme l'ail que nous connaissons. Et en ce qui concerne les objets sacrés, il y a les symboles, comme mon crucifix, que nous devons toujours garder avec nous, parce que sa présence tient le vampire en respect et le réduit au silence. Il y en a d'autres encore, dont je vous parlerai, car au cours de notre quête, nous en aurons certainement besoin. Une branche de rosier sauvage sur le cercueil empêche le vampire d'en sortir. Une balle bénite tirée dans le cercueil le tuera d'une véritable mort. Quant au pieu à travers son corps, nous connaissons déjà la paix qu'il apporte, ainsi que le repos donné par la décapitation. Nous l'avons vu de nos yeux. Donc, quand nous trouverons l'habitation de ce qui fut autrefois un homme, nous pourrons l'enfermer dans son cercueil et le détruire, à condition de suivre les règles que nous connaissons. Mais il est intelligent. J'ai demandé à mon ami Arminius, de l'université de Budapest, de faire des recherches sur lui, et usant de tous les moyens qui existent, il a réussi à rassembler pour moi les éléments de son histoire. Il doit en vérité avoir été ce voïvode Dracula, qui a gagné son renom dans sa lutte contre les Turcs, en traversant le grand fleuve qui formait la frontière de la Turquie. Si c'est le cas, alors il ne s'agissait pas, de son vivant, d'un homme ordinaire, car dans ce temps-là, et pendant les siècles qui suivirent, on parla de lui comme de l'homme le plus intelligent et le plus pénétrant, et comme l'un des fils les plus courageux de ce pays d'au-delà les forêts. Cet esprit puissant et cette résolution de faire l'ont suivi dans la tombe et sont en ce moment même déployés contre nous. Les Dracula étaient, selon Arminius, une grande et noble lignée, bien que ça et là, quelques-uns de ces rejetons eussent été soupçonnés par leurs contemporains d'avoir commerce avec le démon. Ils apprirent ces secrets dans le Skolomans, parmi les montagnes qui dominent le lac Hermannstadt, où le diable revendique comme sien le dixième des érudits. Dans les archives, on rencontre des mots comme Strigoïka, sorcière, Ordog, et Pokol, Satan et enfer, et dans un manuscrit, ce Dracula est justement décrit comme un vampire, ce que nous ne comprenons tous que trop bien. De ses entrailles sont sortis de grands hommes et de nobles femmes, et leur tombe sanctifie la seule terre où cette chose immonde peut résider. Car cela n'est pas la moindre des terreurs qu'inspire cette chose maléfique que d'être enracinée profondément dans le bien. Dans un sol vide de souvenirs sacrés, il ne pourrait reposer. Pendant qu'ils étaient en train de parler, Mr. Morris regardait obstinément par la fenêtre, et il se leva soudain, calmement, pour sortir de la pièce. Il y eut une petite pause, puis le professeur reprit. Et maintenant, nous devons organiser notre action. Nous avons ici beaucoup de données et nous devons mettre au point notre stratégie de campagne. Nous savons, par l'enquête de Jonathan, que 50 boîtes de terre ont été transportées du château jusqu'à Whitby et qu'elles ont ensuite été livrées à Carfax. Nous savons également qu'au moins certaines de ces boîtes ont été enlevées. Il me semble que la première des étapes devrait être de s'assurer si les boîtes restantes se trouvent toujours dans la maison derrière ce mur que nous voyons aujourd'hui, ou si d'autres boîtes ont été enlevées. Dans ce dernier cas, nous devons retrouver... À cet instant, nous fûmes interrompus d'une manière très surprenante. De l'extérieur du bâtiment, nous parvint le bruit d'un coup de feu. La vitre de la fenêtre fut soufflée par une balle qui, ricochant sur la partie supérieure de l'encadrement, finit sa course dans le mur opposé de la pièce. J'ai grand-peur d'être au fond du cœur, bien lâche, car j'ai poussé un hurlement. Les hommes sautèrent tous sur leurs pieds. Lord Godalming bondit à travers la fenêtre et repoussa le battant. Pendant ce temps, nous entendîmes la voix de Mr. Morris. « Désolé, je crains de vous avoir effrayé. Je vais rentrer et vous expliquer. » Une minute après, il entra effectivement et dit « C'était complètement idiot de ma part et je vous demande pardon, Mrs. Harker. Très sincèrement, je crains de vous avoir causé une terrible frayeur. Mais le fait est que, tandis que le professeur parlait, une grosse chauve-souris est arrivée et s'est posée sur le bord de la fenêtre. J'ai une telle horreur de ces satanées bestioles depuis les récents événements que je ne peux plus les supporter. » Et je suis sortie pour la tirer, ainsi que j'ai pris l'habitude de le faire ces derniers soirs, à chaque fois que j'en ai aperçu une. Vous vous êtes même moqué de moi à ce propos, Art. « La fait-vous toucher ?» demanda le docteur Van Helsing. « Je ne sais, je crains que non, car elle s'est enfuie à tire d'elle dans le bois. » Sans ajouter un mot, il revint à son siège et le professeur reprit son exposé. « Nous devons retrouver la trace de chacune de ces boîtes, et quand nous serons prêts, nous devrons soit capturer ou tuer ce monstre dans son repaire, soit, si l'on peut dire, stériliser la terre, afin qu'il ne puisse plus y trouver refuge. Alors, enfin, nous le trouverons peut-être sous sa forme humaine, entre midi et le coucher du soleil, et engager le combat avec lui alors qu'il est au plus faible. Et maintenant, s'agissant de vous, Madame Mina, « votre participation s'arrête cette nuit, jusqu'à ce que tout soit heureusement fini. Vous êtes trop précieuse à nos yeux pour que nous vous laissions courir un tel risque. Quand nous nous quitterons ce soir, vous ne devrez plus nous poser de questions. Nous vous dirons tout en temps voulu. Nous sommes des hommes et donc capables de supporter bien des choses, mais vous, vous devez être notre étoile et notre espoir, et nous n'agirons que plus librement si nous vous savons hors du danger où nous sommes nous-mêmes. » Tous les hommes, et même Jonathan, parurent soulagés. Mais il ne me semblait pas bon qu'ils bravent le danger, et peut-être qu'ils mettent en péril leur sécurité, la force étant la meilleure des sécurités, sous prétexte de me protéger. Malheureusement, leur décision était prise, et quelque difficile à avaler que soit cette couleuvre, je ne pus rien dire à part accepter leur protection chevaleresque. Mr. Morris reprit la discussion. Comme il n'y a pas de temps à perdre, je propose que nous allions jeter un œil à cette maison sur le champ. Le temps fait tout dans ce combat, et une action rapide de notre part pourrait bien sauver une autre victime. Je reconnais que le cœur me manqua lorsque le passage à l'action fut imminent, mais je ne dis rien, car je craignais encore plus qu'en leur apparaissant comme un frein ou un embarras dans leur travail, ils ne décident de me laisser carrément en dehors de leur conciliabule. Ils sont maintenant tous partis à Carfax, bardés de l'équipement nécessaire pour pénétrer dans la maison. Pendant ce temps, ils m'ont dit d'aller au lit et de dormir, comme si une femme pouvait dormir quand ceux qu'elle aime sont en danger. Je vais m'allonger et faire semblant de dormir, pour éviter que Jonathan éprouve une anxiété supplémentaire à mon sujet, à son retour. Journal du Dr. Seward, 1er octobre, 4 heures.
Alors que nous nous préparions à sortir, un message urgent de Renfield me fut remis pour me demander de venir le voir immédiatement. Il avait en effet une information de la plus haute importance à me communiquer. Je répondis au messager que je passerais le voir le lendemain matin, étant pour l'heure très occupé. Le surveillant répondit « Il était très pressant, sœur. Je ne l'ai jamais vu aussi impatient. » J'ignore de quoi il s'agit, mais si vous ne le voyez pas rapidement, il y aura un nouvel accès de violence. » Je savais qu'il n'aurait pas parlé ainsi sans une bonne raison. « Très bien, je vais y aller maintenant. » Et je demandai aux autres de m'attendre quelques minutes, car je devais aller voir mon patient. « Emmenez-moi avec vous, ami John, » dit le professeur. « Ce que vous avez rapporté de son cas dans votre journal m'intéresse au plus haut point, et il y a de plus des liens avec notre affaire. J'aimerais beaucoup le voir, et particulièrement lorsque son esprit est perturbé. » « Puis-je venir également ?» demanda Lord Godalming. « Et moi ?» dit Quincey Morris. « Puis-je venir ?» demanda Harker. J'acceptai, et nous descendîmes tous ensemble. Nous le trouvâmes dans un état de grande agitation, mais plus rationnel que jamais dans son discours et dans ses manières. Il avait une étonnante conscience de lui-même et de son état, cas que je n'avais jamais rencontré auparavant chez un aliéné. Et il tenait pour acquis que ses raisons l'emporteraient sur toutes celles que nous pourrions lui opposer. Nous entrâmes tous les quatre dans la pièce, mais les autres ne prononcèrent pas un mot. Sa demande était d'être relâché immédiatement et reconduit chez lui. À l'appui de cette requête, il faisait état de sa complète guérison et de sa parfaite santé mentale. « J'en appelle à vos amis, » dit-il. « Peut-être accepteront-ils de donner leur avis sur mon cas. » Et d'ailleurs, vous ne m'avez pas présenté. » J'étais si surpris que, sur le coup, le fait de présenter un fou dans un asile d'aliénés ne me parut pas incongru. Comme par ailleurs il faisait preuve d'une certaine dignité dans ses manières, et que je suis habitué à traiter les gens sans distinction de statut, je fis les présentations sur le champ. Lord Godalming, professeur Van Helsing, Mr. Quincey Morris du Texas, « Mr. Renfield. » Il serra la main à chacun d'eux. « Lord Godalming, j'ai eu l'honneur de servir votre père à Widham. Je devine, au fait que vous portez le titre, qu'il n'est plus des nôtres. Il était aimé et honoré par tous ceux qui le connaissaient, et j'ai entendu dire que, dans sa jeunesse, il avait été l'inventeur d'un punch flambé au rhum, très apprécié les soirs de derby. « Mr. Morris, vous devez être fier de votre grand état. Son admission dans l'Union est un précédent qui aura de très lointaines répercussions dans le futur, quand le pôle et les tropiques prêteront allégeance à la bannière étoilée. Le traité se révélera un puissant facteur d'expansion quand la doctrine Monroe sera enfin reconnue comme une fable politique. Et que dire du plaisir de rencontrer Van Helsing ? « Sœur, je ne m'excuse nullement pour avoir délibérément omis toute forme de titre conventionnel. Quand un individu a révolutionné la thérapeutique par sa découverte de l'évolution continue de la matière cérébrale, les formules convenues ne sont plus de mise, car elles sembleraient vouloir le ramener au niveau des autres hommes. Je fais appel à vous, gentlemen, qui, par votre nationalité, votre hérédité ou vos talents naturels, occupez la place qui est la vôtre dans ce monde en perpétuel mouvement, pour témoigner que je suis aussi sain d'esprit que la majorité des hommes qui sont en pleine jouissance de leur liberté. Et je suis certain que vous, docteur Seward, scientifique humaniste et versé dans les sciences médico-légales, verrez comme un devoir moral la nécessité d'examiner mon cas dans tout ce qu'il a d'exceptionnel. » Il fit cette demande sur un ton courtois, mais en montrant beaucoup de conviction, ce qui n'était pas sans un certain charme. Je crois que nous étions tous sidérés. Pour ma part, j'étais absolument convaincu, malgré ce que je savais du caractère et de l'histoire de cet homme, qu'il avait recouvré la raison. J'étais tenté de lui répondre que j'étais tout à fait satisfait quant à sa santé mentale et que je m'occuperais dans la matinée des formalités nécessaires à sa sortie. Mais je jugeais préférable d'attendre toutefois avant de prendre une aussi grave décision, car je savais depuis longtemps à quel point ce patient était sujet à des changements soudains. Je me contentais donc de quelques généralités, remarquant que son état semblait en effet s'améliorer rapidement, et lui disant que nous aurions un entretien un peu plus long dans la matinée, et que je verrais ensuite ce que je pourrais faire pour lui. Cette réponse ne parut pas le satisfaire du tout. Il me répondit tout de suite. « Mais je crains, docteur Seward, que vous n'ayez pas bien compris ma demande. Je désire partir immédiatement, là, maintenant, en cet instant précis, si c'est possible. Le temps me presse, et c'est dans l'essence même du contrat que j'ai passé avec la vieille faucheuse. Je suis certain qu'avec un praticien aussi admirable que le docteur Seward, il suffit d'énoncer un souhait aussi simple, même s'il est d'une importance capitale, pour qu'il soit immédiatement accepté. Il me regardait avec espoir, mais lisant de la désapprobation sur mon visage, il se tourna vers les autres et les regarda attentivement. Ne percevant aucun signe positif, il continua. « Serait-il possible que je me sois trompé dans mes suppositions ?»« En effet, lui dis-je avec franchise, mais en même temps je m'en rendis compte avec une certaine brutalité. » Il y eut une longue pause, puis il dit lentement. « Alors, je pense que je dois vous présenter ma requête autrement. Permettez-moi de vous demander cette concession, cette faveur, ce privilège, ou tout ce que vous voudrez, non pour des motifs personnels, mais pour le salut d'autres personnes. Je n'ai pas la liberté de vous donner mes raisons. Mais vous pouvez, je vous assure, me croire lorsque je vous affirme qu'elles sont les meilleures du monde, généreuses et altruistes, et qu'elles me sont inspirées par un sens élevé du devoir. Si vous pouviez lire dans mon cœur, sœur, vous approuveriez les sentiments qui m'animent. Mieux encore, vous me compteriez parmi vos amis les meilleurs et les plus loyaux. » À nouveau, il nous regardait avec enthousiasme. J'étais de plus en plus convaincu que ce changement soudain dans ses raisonnements n'était rien d'autre qu'une nouvelle forme de sa folie. En conséquence, je décidai de continuer encore un peu cette discussion, sachant par expérience qu'il finirait, comme tous les aliénés, par se trahir. Van Helsing le regardait avec beaucoup d'attention, ses sourcils broussailleux se touchant presque, tant il était intensément concentré. Il dit à Renfield, d'un ton qui ne me surprit pas sur le moment, mais seulement lorsque j'y repensais plus tard, car c'était comme s'il s'adressait à un égal. « Ne pouvez-vous pas nous dire la vraie raison pour laquelle vous désirez être libéré ce soir ? Si vous vous en ouvrez à moi, moi, un étranger, sans préjugés et habitué à garder l'esprit ouvert, je m'engage à ce que le docteur Seward vous accorde, à ses propres risques et sous sa propre responsabilité, ce que vous lui demandez. » Renfield hocha tristement la tête, et on pouvait lire une expression de poignant regret sur son visage. Le professeur continua. « Allons, sœur, réfléchissez. Vous prétendez avoir complètement recouvré votre raison et cherchez à nous impressionner par votre lucidité. Vous, dont nous avons des raisons de douter de la santé mentale, puisque vous n'avez justement pas encore terminé le traitement que vous suivez ici. Si vous ne nous aidez pas dans les efforts que nous faisons pour trouver la meilleure solution, comment pourrons-nous accomplir ce que vous nous demandez ? Soyez raisonnable et aidez-nous. Si c'est en notre pouvoir, alors nous vous aiderons. » Renfield secoua à nouveau la tête en disant « Docteur Van Helsing, je n'ai rien à dire. Votre argumentation est sans faille, et si j'étais libre de parler, je n'hésiterais pas un instant, mais je ne suis pas mon propre maître en cette matière. Je ne peux que vous demander de me faire confiance. Si j'essuie un refus, alors ce ne sera pas moi qui emporterait la responsabilité. » Je pensais qu'il était maintenant temps de mettre fin à cette scène, dont je ne savais si elle devenait trop grave ou trop comique. J'allai vers la porte en disant tout simplement « Venez, mes amis, nous avons du travail. Bonne nuit. » Toutefois, tandis que je me dirigeais vers la porte, un nouveau changement se produisit chez le patient. Il se déplaça vers moi si rapidement que, pendant un instant, je craignis qu'il ne tentât à nouveau de me tuer. Mais mes peurs étaient sans fondement. Il ne fit que joindre les deux mains d'un air implorant, et il me supplia à nouveau. Se rendant compte que ses émotions excessives le desservaient, car elles nous ramenaient plutôt à nos anciennes relations, il devint encore plus démonstratif. Je lançai un regard à Van Helsing et lus dans ses yeux la confirmation de mes propres convictions. Alors mes manières devinrent encore plus distantes et même fermes, et je lui dis que ses efforts étaient tout à fait vains. J'avais déjà vu chez lui cette excitation croissante, quand il faisait une demande à laquelle il avait auparavant beaucoup réfléchi, par exemple quand il avait voulu un chat, et je m'attendais à le voir réagir de la même façon, une résignation maussade. Mais je me trompais. Lorsqu'il comprit que sa demande était sans espoir, il fut pris d'une réelle frénésie. Il tomba à genoux et leva les mains, les tordant en une plaintive supplication. Puis il se lança dans des argumentations sans fin, des larmes coulant sur ses joues et tout son visage exprimant la plus vive émotion. « Je vous supplie, docteur Seward, oh, je vous implore de me laisser sortir immédiatement !» Envoyez-moi où vous voudrez et comme vous le voudrez. Envoyez des surveillants avec moi, avec des fouets et des chaînes. Qu'ils m'enfilent une camisole de force, qu'ils me menottent, qu'ils me mettent des fers aux pieds, qu'on me jette même en prison, mais laissez-moi sortir d'ici. Vous ne savez pas ce que vous faites en me gardant ici. Du fond du cœur, du fond de mon âme, vous ne savez pas à qui vous faites du tort, ni comment, et je ne puis vous le dire. Malheur à moi, je ne puis vous le dire. Au nom de tout ce que vous avez de plus sacré, au nom de tout ce que vous aimez, au nom de votre amour perdu, au nom de votre espoir qui, lui, vit encore, au nom du Tout-Puissant, faites-moi sortir d'ici et sauvez mon âme du péché. N'entendez-vous pas? Ne comprenez-vous pas? Comprendrez-vous un jour? Ne voyez-vous pas que je suis saint d'esprit et que je vous parle sérieusement? Je ne suis pas un fou en pleine crise, mais un homme lucide qui lutte pour sauver son âme. Oh, écoutez-moi, écoutez-moi! Laissez-moi partir, laissez-moi partir, laissez-moi partir! Je pensais que plus cette scène durerait longtemps, plus il s'exciterait et que cela finirait par une nouvelle crise. Alors, je le pris par la main pour le relever. « Venez, lui dis-je sévèrement. Ça suffit, nous en avons assez entendu. Allez au lit et essayez de vous calmer. » Il s'arrêta soudain et me regarda intensément pendant quelques instants. Alors, sans un mot, il se leva et alla s'asseoir sur le bord de son lit. Tout comme les fois précédentes, il allait maintenant s'effondrer, comme je l'avais prédit. Quand le dernier, je quittai la chambre, il me lança d'une voix calme et posée. « J'espère, docteur Seward, que vous me ferez au moins la justice de reconnaître, plus tard, que j'ai fait ce que j'ai pu pour vous convaincre ce soir. »